It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez retrouver également Conflit en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce mois est consacré au terrorisme, la menace sans fin. Et en vous rendant également sur notre site internet revueconflit.com, vous pouvez vous abonner. En vous abonnant, vous permettez de soutenir Conflit et de vous proposer notamment ces contenus gratuits que sont ces podcasts ou bien les émissions que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors nous partons cette semaine dans l'histoire militaire pour évoquer un élément important dans le combat, qui est la notion d'audace, la façon dont certains hommes prennent des décisions pour partir au front, pour prendre parfois l'ennemi à revers et mener des opérations qui semblaient inaccessibles et inatteignables, et pour autant ils ont réussi à vaincre. Ce rôle de l'audace dans les conflits, nous allons l'aborder avec Gilles Labret. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avions fait une émission précédente consacrée aux batailles au Moyen-Âge. Et là, vous venez de publier, toujours d'ailleurs avec le même co-auteur, Hugues Perrault, Qui ose vaincra, de Gaugamélès à Wadi Doum, quand l'audace change le cours des batailles, qui est paru chez Pierre de Taillac. Alors, nos éditeurs commencent à connaître ces éditions Pierre de Taillac, qui sont essentiellement consacrées à l'histoire militaire et toujours très bien illustrées, de magnifiques cartes également qui permettent de situer les batailles. Et vous-même, Gilles Labret, vous êtes militaire, colonel et travaillez dans l'infanterie, et vous vous intéressez notamment à l'histoire militaire puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet-là. Cette notion d'audace, elle est à la fois évidente et en même temps pas complètement évidente, parce que on a l'impression que dans une bataille, eh bien, il y a le plan qui a été établi, il y a la technique, enfin le matériel, il y a les objectifs, et donc un général ou un chef d'État qui fixe des objectifs, et que les hommes, à la fois on sent bien qu'ils ont un rôle important, évidemment qu'ils sont fondamentaux dans une bataille, mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent réellement avoir une part de liberté, une part d'audace? Pourquoi avoir voulu étudier cette vertu, parce que l'audace est une vertu, à travers ces batailles?
En fait, au travers de votre question, vous touchez du doigt toute la complexité de la guerre ou de l'activité guerrière, qui est une activité, comme vous le savez, radicale et complexe, parce qu'elle met en opposition, dans une logique de duel, souvent, des organisations massives et organisations qui n'ont qu'un objectif, qui est celui de remporter la victoire, d'atteindre des objectifs fixés par les autorités politiques au moindre coût. Et c'est bien pour cela que se mettent en place autour, et de plus en plus, autour de ces systèmes guerriers, des méthodologies de planification, de coordination, car il y a tellement de moyens dans les trois dimensions, on pourrait même parler d'une quatrième dimension avec les champs immatériels, se mettent en place une organisation et des systèmes qui visent à utiliser chaque capacité au mieux de ce qu'elle peut offrir, sans créer de friction entre les systèmes. Et donc toute cette ingénierie, cette organisation demande une planification, une organisation, donc des délais, des états-majors pour mettre en œuvre tous ces systèmes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je reviens sur cette notion du duel. La guerre ou la bataille, c'est une opposition entre deux acteurs manière assez évidente, les deux veulent l'emporter. Et donc, les deux opposent leur système et leur puissance à leur adversaire. Bien évidemment, toute la question est celle de ce choc et de la nécessité pour le plus fort, le plus puissant technologiquement, humainement, de pouvoir dérouler son plan, ses procédures, et pour le plus faible, le moins puissant, ou en tout cas celui qui facialement pourrait ne pas l'emporter, de trouver un biais ou des biais de contournement pour pouvoir rééquilibrer ce défaut de puissance et l'emporter. C'est en ce sens que les actions audacieuses et la prise de risque sont fondamentaux, puisqu'il s'agit de rééquilibrer une situation qui, à l'origine, est mécaniquement déséquilibrée.
Vous avez publié un précédent livre qui s'est intitulé « Les sept péchés capitaux du chef militaire ». Donc c'était un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire. Là, c'est l'inverse. C'est plutôt ce qu'il faut faire si on veut justement réussir. De les sept vertus.
Alors, oui et non. C'est une vertu, vous l'avez très justement dit, mais c'est une vertu qui doit s'appuyer sur plusieurs éléments. Tout d'abord, une parfaite connaissance de ses propres capacités, et en ce sens, les armées, quelles qu'elles soient, au travers de leur entraînement, de l'écriture d'une doctrine qui est une grammaire commune, au travers des systèmes de commandement, visent à utiliser les moyens, les capacités au maximum de ce qu'elles peuvent produire. Mais c'est en même temps une prise de risque dans le sens où le résultat n'est pas assuré. Quelle que soit la rigueur que l'on met dans sa manœuvre, surtout si on est en situation de déséquilibre, de puissance, il y a dans la prise de risque et dans l'audace la capacité aussi à échouer. Donc cette audace, elle se prépare, elle s'organise, et en même temps, elle donne une forme de part au hasard dans ce que l'ennemi comprendra de notre manœuvre, de ce qu'il verra, de ce qu'il ne verra pas.
Donc qui ose ne gagne pas toujours. Il peut y avoir parfois où ça échoue.
Alors qui ose ne gagne pas toujours. Sachant que, bien évidemment, et je reviens un peu sur les termes, si vous le permettez, aujourd'hui, tous les systèmes qui sont mis en place dans le milieu militaire ou civil visent à éviter le risque, à se prémunir contre le risque, à mettre en place une forme de culture de la précaution, et le milieu militaire, lui aussi, rentre dans cette problématique d'éviter le risque, en mettant en place des méthodologies, des systèmes, des procédures, des organisations et des entraînements qui visent justement à ne jamais être surpris. Or, ici, on prend les aspects sous un autre sens. L'audace, à bien y regarder, renvoie une forme positive de hardiesse, une disposition qui porte au dépassement d'un certain nombre d'obstacles que l'adversaire peut nous fixer ou que nous pouvons nous-mêmes nous fixer au travers de conventions, et ce dépassement pour atteindre un objectif. Et en ce sens, c'est un caractère qu'il faut, une forme d'esprit qu'il faut rechercher et développer. La prise de risque dans le sens positif, c'est-à-dire celle que l'on génère pour déstabiliser l'adversaire, elle suscite souvent des réactions un peu plus négatives parce que la finalité est moins assurée et on est moins dans un trait de caractère que dans une réalité physique. Et au final, cette prise de risque, il faut pouvoir la mesurer. Et c'est là aussi l'un des axes de réflexion qui sont celles de l'armée de terre française en matière de doctrine et de tactique, c'est pouvoir essayer d'évaluer, de modéliser cette prise de risque pour pouvoir aboutir au résultat attendu, sachant que, bien vous l'avez souligné fort justement, la prise de risque, puisque la finalité n'est pas assurée, peut parfois aboutir à un échec. Voilà, c'est-à-dire ce pas supplémentaire ou cette décision supplémentaire qui fait basculer les événements.
Alors, dans votre ouvrage, vous avez pris plusieurs batailles que vous analysez, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il y a des traits communs dans la manière dont l'audace est réalisée, des tactiques communes, prendre l'ennemi sur son point faible, attaquer au contraire là où se trouve le chef pour détruire l'adversaire à la tête. Est-ce qu'on arrive à faire comme ça un fil des acteurs, une typologie type de coups d'audace qui peuvent réussir?
Alors c'est ce que nous avons avec Hugues Perrault essayé de faire. En effet, regrouper par thème, en s'appuyant sur des exemples historiques avec des époques et des cultures tactiques un peu différentes, puisque nous avons essayé de balayer très très large géographiquement et historiquement, de les regrouper dans des grandes familles. À titre d'exemple, lorsqu'on pense à la manœuvre sur les arrières, ou comme l'écrivait Napoléon Bonaparte, sur les derrières, on peut tout autant s'appuyer sur des exemples historiques des campagnes napoléoniennes que sur, c'est ce que nous avons fait dans ce livre, sur un raid d'un général sudiste sur les arrières nordistes, ou une campagne assez extraordinaire à mon sens, qui est celle des Shindits qui sont des unités britanniques, indiennes en particulier, sur les arrières japonais en Birmanie entre février et août 1944.
Et il y a également le fait d'attaquer l'adversaire sur un terrain auquel il ne s'y attend pas. Enfin, on pense peut-être spontanément à Austerlitz, où là, Napoléon fait attaquer dans les marécages. Mmh. Donc le choix également du terrain et essayer de prendre l'adversaire sur un plan qui contrebalance en fait ce à quoi il s'attend, de manière à le mettre dans l'imprévu.
Exactement, pour rebondir sur votre propos, en fait, le terrain peut être vu par un des acteurs comme infranchissable ou difficilement franchissable et de nature du coup à rendre peu évidente ou peu possible une action de contournement. Et bien évidemment, lorsque on parle du terrain et de ce contournement sur un terrain improbable, moi j'ai deux exemples qui me viennent en tête immédiatement. Un premier exemple du XIIIe siècle, c'est une campagne menée par les troupes mongoles, par Gengis Khan, contre un royaume musulman, le royaume de Khwarezm, contre un shah qui, voyant arriver les troupes mongoles, met en place son dispositif le long d'une rivière, la rivière Sirdarya, et donc attend de pied ferme, avec une armée plus nombreuse que celle des Mongols, leur adversaire. Si ce n'est que le chef mongol, très intelligemment, fait traverser à deux armées un désert estimé infranchissable, le désert de Kizilkoum, et avec pour résultat que le shah Halaleddin Muhammad se retrouve avec deux armées dans son dos. Et bien évidemment, ce désert étant infranchissable, il n'avait mis personne pour arrêter une éventuelle pénétration. Et cet empire turc s'effondre en l'espace d'une année. Et puis bien évidemment, le deuxième exemple auquel nous pensons tous naturellement, c'est celui de 1940 et de l'effort mené par les Allemands dans les Ardennes.
Là aussi, c'était infranchissable.
Alors, on a beaucoup tiré de conclusions sur ce caractère infranchissable. Je pense que l'état-major français était tout à fait conscient que, d'abord, cet espace n'était pas infranchissable. Et puis, entre la Meuse et les Allemands, il y avait quand même une partie de l'armée belge. Mais à défaut d'être infranchissable, le franchissement était complexe et se heurterait mécaniquement, pour celui qui le tenterait, à des problèmes de délai, d'embouteillage sur les axes, etc. Et donc, du coup, bien évidemment, et conformément à la manœuvre que nous avions prévue, la manœuvre d'Ille, l'effort franco-britannique était articulé autour de la mise en place d'un dispositif en Belgique et très peu de moyens, entre guillemets, de haute technologie et entraînés étaient mis en place face aux Ardennes. Donc, ce choix était en théorie pertinent et intelligent. Dans les faits, c'est retrouvé inadapté à la manœuvre allemande.
Alors, parmi les batailles que vous étudiez, il y en a une qui est peu connue, qui est la campagne du Tanganyika, côté allemand. Alors, peu connue en France parce que les Allemands ont eu un empire colonial en Afrique, qui a été en partie récupéré par les Français et les Anglais à la suite de la Première Guerre mondiale. Et parmi eux, il y a Paul-Émile von Lotho, qui est donc celui qui dirige l'armée allemande, qui est lieutenant-colonel, et qui mène une redoutable offensive. Alors, vous citez des propos tenus par un général anglais, qui est un hommage rendu à ce colonel allemand. Il dit ceci: il y a toujours trois routes ouvertes à l'ennemi, et von Lotho Forbeck prend d'ordinaire la quatrième. Donc ça, c'est un bel hommage d'abord à son adversaire, et aussi une belle définition de ce qu'est l'audace. C'est prendre la quatrième route que personne n'avait vue.
Alors, cette campagne est passionnante à de multiples titres. Tout d'abord, lorsque l'on observe la situation en 1914, la situation de cette colonie allemande, aujourd'hui la Tanzanie, en fait, elle est encerclée par des opposants. Au nord, Kenya, Ouganda, les Britanniques. À l'est, le Congo belge. Au sud, le Nyasaland, toujours avec les Britanniques. Et puis, plus au sud, le Mozambique, qui à l'époque était colonie portugaise, et le Mozambique rentrera dans la guerre en 1914. Donc, concrètement, cette colonie allemande étant encerclée d'ennemis avec des volumes et des capacités puissantes, on pourrait imaginer, comme ce fut le cas au Cameroun, au Togo, l'armée allemande allait résister peu de temps, si tant est qu'elle résiste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce lieutenant-colonel puis colonel allemand part du postulat que toute action qu'il va conduire va forcément aspirer des capacités alliées qui ne seront pas utilisées sur le front en Europe. Et donc il décide, avec 2700 officiers et une dizaine de milliers d'askaris, qui sont des soldats africains, des soldats indigènes, de mener une guerre face à, grosso modo, 54 000 Britanniques, Sud-Africains et soldats ougandais, kenyans et Nyasaland, et 17 à 20 000 Belges, quand même. Donc un rapport qui est hors de propos pour pouvoir essayer d'imaginer une résistance. Et ce colonel Leto Vorbeck commence la guerre, commence le conflit en attaquant ses adversaires. Donc c'est assez incroyable, avec beaucoup de succès. Et ensuite, ses adversaires belges, britanniques et sud-africains montant en puissance et évoluant, eh bien il adapte ses méthodes en refusant, je dirais, la logistique lourde qui est celle de ses adversaires, et en jouant justement sur les espaces. Et pour l'anecdote, en dehors du fait qu'il a, entre guillemets, usé un certain nombre de chefs militaires alliés, parce que je note le général Aitken, Wapshire, Orion Smith Dorian, le général Smuts et enfin le général Van Deventer, en fait, les alliés n'arrivent pas à trouver la solution pour le bloquer. À la fin de la guerre, quasiment tout à la fin de la guerre, il prend même la décision de rentrer au Mozambique, de faire une guerre au Mozambique chez les Portugais, et il ne capitule que le 25 novembre 1918, c'est-à-dire 14 jours après la fin de la guerre, puisque le général sud-africain l'informe de l'armistice, et au départ il n'y croit pas, et ensuite il veut négocier les conditions de cet armistice, et ce colonel von Lotho Vorbeck rentre à Berlin. Il a droit à un défilé de la victoire, puisque c'est le seul chef allemand qui a capitulé après l'armistice.
Donc il a tenu 4 ans. Comment a-t-il fait, justement, parce que ça suppose aussi des questions logistiques. Il y a les soldats qui se battent, mais il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut leur fournir des munitions. Donc dans ce type de guerre, il y a la question de la logistique et du rapport aussi avec les populations civiles pour être ravitaillées est importante.
Absolument. En fait, le choix qui est le sien, tout d'abord, c'est d'avoir une logistique extrêmement limitée et articulée autour de porteurs. C'est-à-dire qu'il porte lui-même sa logistique et il n'est pas lié à une forme de motorisation de sa logistique. Il n'a pas de camion. Et donc, ça lui donne une vraie souplesse pour pouvoir évoluer et manœuvrer dans un terrain où il n'y a pas de piste ou de route carrossable, contrairement à ce que font notamment les Belges et les Britanniques. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il bénéficie aussi de conditions, je dirais, endogènes favorables. J'en prends pour exemple que les Sud-Africains, lorsqu'ils commencent à déployer leurs troupes, notamment depuis le Kenya et qu'ils pénètrent dans la colonie britannique, ont des chevaux qui sont très bien adaptés à l'Afrique du Sud, mais qui souffrent cruellement de maladies et puis et des animaux. Et donc, très rapidement, les Sud-Africains perdent 50, puis 75%, puis quasiment la totalité de leurs chevaux. Donc, ce qui stoppe leur, ce qui bloque leur mobilité, puisque eux n'ont pas fait le choix des porteurs et de la logistique limitée. Et enfin, pour les munitions, et vous avez parfaitement raison, en fait, les Tovarbek fait le choix de s'approvisionner en particulier sur les ressources prises aux adversaires. Ce qui fait que très rapidement, il a un armement très hétéroclite pour ses soldats, mais il fait l'économie de dépôts logistiques intermédiaires.
Et finalement, il a atteint ses objectifs, c'est-à-dire qu'il a réussi à fixer des troupes alliées pendant 4 ans. Alors, si elles avaient été revenues en Europe, est-ce qu'elles auraient été utiles ou pas, c'est une question. Mais enfin, en tout cas, l'objectif qui s'était fixé de fixer les troupes et d'empêcher que ces troupes ne combattent sur le front européen, lui, a été réussi.
Avec environ une douzaine de milliers de combattants au départ, selon certaines études, il aurait bloqué directement ou indirectement près de 200 000 soldats alliés. Voilà. Et ce qui est quand même assez disproportionné d'un point de vue mathématique, mais en ce sens, il atteint sans doute ses objectifs. Est-ce que ces forces auraient été déployées en Europe? Vous avez raison, la question peut être posée, mais en tout état de cause, cette résistance et cette audace dans les opérations a posé un problème. Pas uniquement géographique, hein, puisque il n'y avait pas de doute sur le fait que cette colonie serait in fine occupée par les armées alliées, mais a obligé de déployer les alliés à déployer des troupes non seulement pour essayer d'attraper le général, celui qui est devenu à la suite de la guerre le général Van Lettow-Vorbeck, mais en plus conserver des troupes en arrière pour assurer les flux logistiques, pour tenir les zones qui avaient été conquises, etc.
Et pour les alliés, quel est l'intérêt ou l'objectif à lui courir après? Pourquoi ne pas l'avoir laissé au Tanganyika et avoir ramené les troupes en Europe?
Alors le principal effet qui était produit, à mon sens, c'est d'abord un effet psychologique. C'est-à-dire que parmi les objectifs qui étaient fixés au commandement allié, il y avait celui de conquérir l'ensemble des colonies allemandes. Vous avez tout à fait raison. On aurait pu laisser cette colonie continuer à évoluer en ce sens, mais sans forcément mettre en place de forces autres que celles de nature à isoler cette colonie. Mais le fait de conquérir géographiquement ces espaces a amené forcément à rentrer dans une forme d'acceptation du piège tendu par Van Lettow-Vorbeck, qui était celui d'aspirer des ressources.
Alors, vous citez dans votre ouvrage, à un moment donné, un extrait de Mao Tse-tung, qui est un chef de guerre, d'ailleurs, ça serait intéressant de l'étudier comme tel. Voilà ce qu'il dit, la citation est moyennement longue, mais elle vaut le coup d'être citée. « Notre tactique, c'est celle de la guerre des partisans. Elle se ramène pour l'essentiel au principe suivant, disperser les forces pour soulever les masses, concentrer les forces pour faire face à l'ennemi. L'ennemi avance, nous reculons. L'ennemi s'immobilise, nous le harcelons. L'ennemi s'épuise, nous le frappons. L'ennemi recule, nous le pourchassons. Pour créer des bases révolutionnaires stables, recourir à la tactique de la progression par vagues. Au cas où l'on est talonné par un ennemi puissant, adopter la tactique qui consiste à tourner en rond. » C'est remarquable de voir qu'en quelques mots, quelques lignes, il a tout expliqué de ce qu'est la guerre de guérilla, la guerre de partisans. C'est un remarquable analyse de chef de guerre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a lui-même appliqué.
C'est ce qu'il a lui-même appliqué. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on a appelé la longue marche, c'est que la guérilla communiste elle-même tâtonne dans ses modes d'action. Et à chaque fois qu'elle essaye de rentrer dans une logique de symétrie avec les forces nationalistes, en règle générale, elle perd, parce qu'elle n'a pas les moyens aériens, n'a pas les moyens de feu et le volume de force suffisant. C'est en ce sens que Mao Tse-tung a une vision extrêmement pertinente du combat qu'il est en mesure de mener. C'est qu'au travers de cette citation, on voit en filigrane le fait d'un refus des règles, d'un refus d'une forme de cohérence dans la manœuvre, de sorte que l'adversaire n'arrive pas à appliquer une forme de doctrine à son adversaire, mais est toujours en train de découvrir un mode d'action original, audacieux, inattendu. Et vous avez tout à fait raison de relever cette citation qui s'applique à la guérilla, mais qu'on pourrait presque d'ailleurs appliquer à des combats et des conflits de haute intensité.
Alors, une bataille que vous étudiez également, qui est là aussi peu connue, mais très intéressante, enfin peu connue en France, c'est la campagne de Birmanie, la campagne de Birmanie des Shindi, donc qui se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes entre février et août 1944, et les Américains affrontent les Japonais dans ce qui est encore l'Empire des Indes, donc on est encore dans la juridiction anglaise, puisque la Birmanie fait partie de l'Empire des Indes, qui devient indépendant quelques mois plus tard. Là, il s'agit d'intervenir dans une situation géographique compliquée, c'est la jungle, donc conditions aussi climatiques extrêmes, chaleur, humidité, tout ce qui va avec les bestioles et autres qui sont particulièrement pénibles pour des soldats. Comment est-ce que là les Américains conçoivent leur offensive contre les Japonais et s'organisent par rapport à ces éléments naturels qui sont particulièrement pénibles?
Alors, une fois de plus, on est au travers de cette campagne dans l'ordre du refus de certaines évidences, et au travers du refus de ces évidences, la mise en place d'une modalité tactique vraiment originale et risquée. À l'occasion de cette campagne de Birmanie, Ord Wingate, qui est un chef militaire un peu britannique, un peu atypique, qui a déjà combattu notamment dans la corne est de l'Afrique, part du postulat suivant: les troupes occidentales, culturellement sans doute, mais du fait de leur entraînement, les troupes occidentales sont mal adaptées au combat en jungle, sont mal adaptées au combat sur les arrières, et donc la jungle est le domaine privilégié du combattant japonais. Voilà, ce qui avait été une première surprise à l'occasion de la prise de Singapour, mais cela se confirme sur l'ensemble des années, où manifestement les Japonais, de par la rusticité de leurs soldats, la souplesse de leur système de commandement, et puis aussi des équipements assez légers, sont les maîtres de ce milieu. Et donc, il y a deux écoles qui s'opposent dans l'armée britannique. Une école un peu traditionnelle qui vise à défendre les frontières de l'Inde, puisque chacun a bien compris que l'objectif suivant après la Birmanie sera sans doute l'Inde, et en s'appuyant sur un certain nombre d'ailleurs de nationalistes qui fourniront quelques éléments pour appuyer les Japonais. Et donc des chefs militaires britanniques qui préfèrent concentrer tous leurs efforts sur cette défense, et puis d'autres chefs militaires, dont Ward Wingate, qui dit: bien écoutez, je vais rentrer dans l'espace de puissance ennemie, et je vais le contester là où il est bon, et comme les Japonais ne s'attendent pas à ce que je vienne les contester chez eux, dans leur milieu favorable, eh bien je vais rééquilibrer les choses et je vais créer une forme de déstabilisation du commandement japonais. Alors, c'est vrai de par le milieu que vous avez décrit, qui est un milieu extrêmement difficile, mais c'est vrai aussi au travers de ce qui apparaît comme une opération assez exceptionnelle, c'est que ces combats dans la jungle se font sur les arrières des Japonais. C'est-à-dire qu'une fois que le général Wingate a l'autorisation de mener cette opération, l'opération Thursday, on lui donne les moyens de transporter 10 000 hommes, une division à 6 brigades sur les arrières japonais. Donc il y a une prise de risque absolue, puisque bien évidemment, si les Japonais tombent sur les zones de posée immédiatement, l'affaire peut se terminer en fiasco. Et puis, ces unités, comme elles sont sur les arrières, ne peuvent être ravitaillées que par voie aérienne. Et cette opération, lorsque les déclencher, alors il faut savoir qu'il y a déjà une première opération déclenchée en 43 qui donne des résultats assez moyens d'ailleurs. On sait que lorsqu'on va déployer ces 10 000 hommes, on n'est pas sûr, in fine, qu'ils atteignent leurs objectifs, c'est-à-dire la déstabilisation des arrières japonais, et puis qu'on puisse, entre guillemets, les récupérer à l'issue de l'action. Voilà. Et en fait, cette opération fonctionne particulièrement bien parce que les soldats britanniques et indiens se battent à armes égales, je dirais, avec les Japonais dans ce milieu qui était pourtant le milieu favorisé ou favorable des Japonais. Et ça a un deuxième effet, c'est qu'au même moment, ou quasiment au même moment, les Japonais lancent leur offensive en Inde, ce qu'on appelle l'opération Hugo, si ce n'est que leurs arrières logistiques sont en permanence harcelées et attaquées par les Britanniques.
Donc si on attaque l'adversaire là où sur son point fort, qu'on arrive à le vaincre, on a tout gagné. Mais enfin, le point fort est justement là où c'est le plus difficile.
Justement, vous avez tout à fait raison, c'est là où c'est le plus difficile. Et c'est là qu'il y a la question de la prise du risque et du résultat qui est non avéré. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme c'est le cas avec Ord Whitgate, atteindre son objectif et contester sa suprématie à l'adversaire dans un milieu qui est le sien. Et puis parfois, malheureusement, cela échoue parce que soit l'opération n'est pas montée avec assez de précision, ou alors elle est tout simplement trop ambitieuse par rapport aux capacités réelles.
Alors une autre bataille que vous évoquez, on va revenir à l'époque antique, qui est la bataille de Leuctre. C'est intéressant aussi de voir comment l'Antiquité continue à nous apprendre des choses et peut être abondamment étudiée. Là, il s'agit de prendre l'adversaire à contre-pied. Donc nous sommes en 371 avant Jésus-Christ, c'est donc à l'époque des Grecs. Il s'agit de donc ces chefs de Thèbes et Paminondas, et on a une bataille dans une plaine qui est la plaine de Leuctre, et face aux Thébains, ce sont donc les Spartiates avec la célèbre phalange spartiate qui a vaincu Athènes, et les Spartiates sont particulièrement réputés pour leur capacité de combat terrestre. C'est ce qui a toujours fait leur spécificité, Athènes étant traditionnellement présentée comme la puissance telle à Socratique. Et là, les Thébains, à l'époque, Thèbes, c'est pas du tout c'est pas une grande puissance, ça n'a pas l'aura qu'a Sparte au même moment, qui vient en plus de vaincre le numéro 1 qui était Athènes, et pourtant ils parviennent à les battre et à mettre en déroute cette phalange.
Alors, vous avez raison, une fois de plus, de relever ce que l'Antiquité et l'histoire peuvent nous apporter, y compris pour nos opérations aujourd'hui et au-delà même du milieu militaire. Ce qui est très intéressant sur cette bataille de Leuctre, c'est le refus de suivre une règle et du coup mettre l'adversaire face à une situation qui est inattendue. À cette époque, pendant la guerre du Péloponnèse, par principe, l'aile qui est la plus puissante dans chaque armée est l'aile droite. C'est là où on met les meilleures unités. Et donc, lorsque les deux camps se font face, les deux ailes les plus puissantes ne s'opposent pas. Et c'est une sorte de règle qui est établie, qui est acceptée par tous, qui s'explique aussi autour de la manœuvre de la phalange, etc. Et les Spartiates sont maîtres en la matière. Et à cette occasion, Thèbes, qui est la puissance émergente, qui commence progressivement, doucement mais sûrement à prendre une place particulière dans les relations entre cités, décide. C'est le choix du chef Thébain et Paminondas, décide de ne pas jouer le jeu. C'est-à-dire que ses forces les plus puissantes, ils ne les mettront pas sur l'aile droite, mais sur l'aile gauche. C'est-à-dire que les deux forces les plus puissantes se font face. Ce qui est assez original et donc lorsque les Spartiates le constatent, ils sont un petit peu gênés. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que l'épaisseur de la phalange, le nombre de rangées de la phalange, sont quasiment normés. Là, encore une fois, c'est un rapport entre la puissance et la capacité. Plus on met de rangées, plus on se gêne à l'occasion du choc. Et comme Epaminondas a bien perçu que la phalange spartiate, puisque c'est une armée avec des alliés, est la plus dangereuse, si elle tombe, si elle échoue, si elle est détruite, l'ensemble du système va se déliter. Donc il fait le choix de mettre ses forces les plus puissantes, et notamment le bataillon sacré, qu'on appelle le bataillon sacré, les 300 meilleurs combattants de Thèbes, sur son flanc gauche, face au roi spartiate Cléombrote, et en plus il met une épaisseur dans sa phalange supérieure à celle des spartiates, et le reste de son armée, en fait, il la fait reculer pour éviter le contact. Et donc les spartiates non seulement sont surpris, ils n'ont pas le temps de réagir parce que Epaminondas très intelligemment a mis un rang de cavalier devant son aile gauche pour qu'on voit pas très très bien ce qui se passe. Et sans attendre, l'armée thébaine et ce bataillon sacré va au contact des spartiates, qui découvrent, un, qu'ils font face à l'armée, la force la plus puissante, deux, que la masse est beaucoup plus compacte puisqu'il y a plus de rangées, et donc du coup ils n'ont pas le temps de se réarticuler. Et c'est en ce sens que Epaminondas, qui renouvellera d'ailleurs cette action à l'occasion de la bataille de Mantinée, déstabilise les règles et prend son adversaire à contre-pied.
Et du coup, ça demeure une des grandes batailles de l'Antiquité. On pense souvent à Alexandre le Grand, qui a beaucoup marqué les esprits. Il y a Alexandre le Grand, il y a Napoléon, qui font partie de ces grands militaires, stratèges, qui sont beaucoup étudiés. Mais on voit, notamment à travers vos ouvrages, que l'histoire militaire, c'est pas uniquement l'érudition ou savoir ce qui a pu se passer. C'est en tant que tel, c'est intéressant aussi, mais c'est aussi l'appliquer à aujourd'hui. Comprendre comment sous l'Antiquité ou l'époque médiévale on menait combat, ça peut être utile, y compris pour la guerre d'aujourd'hui, qui n'a plus grand chose à voir d'un point de vue technique, mais dont certaines manières de faire ou certaines manières de penser peuvent être encore utilisées.
Absolument. Et je vais partir, si vous le permettez, de la bataille de Leuctre, justement, pour aller en ce sens. Ce qu'on appelle, au travers de cette bataille, la manœuvre avec un ordre oblique, eh bien, c'est exactement la manœuvre qui sera jouée par Frédéric II à la bataille de Leuthen, quasiment 2000 ans plus tard, face à ses adversaires autrichiens. Il joue exactement la même manœuvre, c'est-à-dire que, au lieu de mettre son armée en symétrie par rapport aux Autrichiens, en fait, il met ses forces les plus puissantes sur un flanc, il bascule son flanc, il remonte l'armée autrichienne, qui est surprise par cette manœuvre en ordre oblique. Et aujourd'hui, ces batailles, qu'il s'agisse de Leuctre, la bataille de Cannes, etc., font toujours école, dans le sens où, partant du postulat que nous sommes toujours dans une logique de duel, il s'agit d'imposer à son adversaire sa manœuvre, et tout en surchargeant son adversaire de dilemmes. C'est-à-dire que le chef ennemi doit toujours se poser la question de savoir: mais que font-ils face à moi? Comment manœuvrent-ils? Pourquoi, lorsque je m'attends là, est-ce qu'ils me résistent? Tout à coup, ils en reculent. Pourquoi reculent-ils? Est-ce qu'ils sont en train de lâcher? Est-ce que je leur fais peur? Ou est-ce qu'il y a un piège? Et donc, on est toujours dans cette logique. Et l'intérêt de l'histoire militaire n'est pas de reproduire les systèmes, puisque forcément les capacités ne sont pas les mêmes, mais d'essayer de tirer des enseignements sur une forme de réflexion, de méthodologie, visant non pas à reproduire exactement, mais dans des configurations différentes, avec des moyens différents, de tendre là aussi des pièges, au contraire, de jouer des actions audacieuses, des formes parfois de coups de dés, pour déstabiliser cet adversaire. Le frapper à la tête, directement, c'est le cas souvent dans l'histoire, parce que les chefs militaires sont engagés au contact. On peut le frapper à la tête aussi, je dirais de manière un peu plus figurée, en le déstabilisant, en créant des biais cognitifs, à savoir soit trop d'assurance, soit au contraire une incompréhension de ce qui se passe,
le surcharger de fausses informations ou au contraire le couper de l'information. Frapper le chef ennemi à la tête, c'est toujours un objet pour nous, une volonté. Le prendre à contre-pied en appliquant pas forcément la doctrine telle qu'il imagine qu'on va l'appliquer, le manœuvrer sur ses arrières, parce que ce qui est intéressant lorsqu'on manœuvre sur les arrières, c'est qu'on a une action sur les flux logistiques, mais aussi on a une action très forte sur le moral de l'adversaire. Une armée, elle a toujours un lien, une sorte de fil avec sa logistique, avec son pays. Parfois, le but étant de conserver une forme de d'autonomie dans l'action. Lorsque ce fil est coupé, il y a une vraie action morale de l'adversaire qui non seulement ne fait plus face à son ennemi devant lui, mais tout autour de lui, et il n'est plus en contact avec ses bases arrières. Et donc, pour le moral du soldat comme du chef, là encore une fois, on touche à, je dirais, un ressort historique traditionnel classique qu'on essaye encore de mettre en œuvre.
Dernière question, Gilles Labré, pour conclure cette émission. Nous commémorons le 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Dans toutes les batailles napoléoniennes, quelle serait celle qui correspondrait le mieux à une bataille où Napoléon ou Bonaparte a fait preuve d'audace et a permis de renverser une bataille qui était vue comme perdue et qu'il a malgré tout réussi à gagner?
Alors, si on en revient à des batailles qu'il était sur le point de perdre pour des problèmes de rapport de force, on pense bien évidemment à l'action du général Dezay à Marengo qui intervient opportunément, ce que fera moins opportunément le maréchal Grouchy à Waterloo, mais qui intervient opportunément à Marengo, donc en 1800, pour faire basculer justement et déstabiliser le dispositif ennemi. Parmi les actions les plus audacieuses, sachant que je permets d'insister, l'audace n'est pas l'impétuosité ou une prise de risque folle, c'est aussi un calcul extrêmement fin. Une bataille que je trouve assez exceptionnel d'un point de vue stratégique et tactique, c'est la bataille d'Iéna. La bataille d'Iéna qui vise pour Napoléon à engager le combat avec les Prussiens, donc nous sommes en 1806, avant que ces Prussiens ne fassent eux-mêmes jonction avec un fort contingent russe qui est en train de se déplacer plein ouest. Contingent russe qui sera battu un petit peu plus tard, mais Napoléon Bonaparte veut vaincre les Prussiens avant que ceux-ci ne fassent jonction avec les Russes. Et donc, il fait une manœuvre extrêmement habile pour obliger les Autrichiens, qui ont bien compris la manœuvre et qui essayent de se replier, pour les engager au combat. Lui-même prend contact avec les Autrichiens, ce qu'il croit être le cœur de l'armée autrichienne à Iéna, et d'ailleurs contrebat une manœuvre autrichienne qui vise à reproduire d'ailleurs un peu ce que faisait Frédéric II avec l'ordre oblique, sauf que Napoléon Bonaparte non seulement a de très fortes connaissances historiques et connaît par cœur les campagnes de Frédéric II, donc il ne tombe pas dans le piège, et en même temps il met sur les arrières autrichiens un corps aux ordres du maréchal Davout, qui lui fait face en fait à ce qui va être la partie la plus imposante de l'armée autrichienne à Hoherstadt. Et donc il y a deux batailles qui se passent en simultané, une bataille au contact sur Iéna, et Napoléon Bonaparte, fort intelligemment, a fait manœuvrer un corps sur les arrières autrichiens qui tombe sur une armée française qu'il n'attend pas, qui d'ailleurs, se dit en passant, est beaucoup plus faible en effectif, mais très dynamique et active, et dans le même espace géographique, deux batailles se déroulent, et deux batailles qui sont deux belles victoires qui font que l'armée prussienne s'effondre, l'armée de Frédéric II. Il faut garder en tête que à cette époque, il y a un vrai mythe autour de l'invincibilité de l'armée prussienne. Cette armée prussienne qui s'effondre en l'espace de 48 heures. C'est une manœuvre vraiment à la fois pertinente intellectuellement et d'une grande audace, et une audace qui porte ses fruits.
Bien, merci beaucoup, Gilles Labré, d'avoir évoqué pour nous cette audace. Je rappelle le titre de votre ouvrage, qui est coécrit avec Hugues Perrault, Qui ose vaincra, de Gogamélès à Wadi Doum, quand l'audace change le cours des batailles, que l'on peut retrouver aux éditions Pierre de Taillac. Toutes les références de l'ouvrage sont sur le site internet de Conflit, bien évidemment. Et puis, une précédente émission avec le même co-auteur et le même éditeur, qui était donc consacré à la guerre au Moyen-Âge. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.